Il est 19h21.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse.
Le Covid a-t-il changé notre rapport à la science? Nous venons tous de traverser une période très anxieuse. C'est pas terminé. Nous venons tous de traverser une période inédite. Nous avons vu fleurir dans nos médias des paroles scientifiques dont nous avons tous pu croire à un moment qu'elles étaient contradictoires. Dans cette visibilité inédite de scientifiques à la télé, dans les journaux, à la radio, voilà que on entend ceux qui choisissent le scientifique que l'on croit, celui qu'on ne croit pas par rapport aux autres, un mélange, ignorance, défiance et cette idée que soudain, les Français n'ont plus confiance en la science. Eh bien, la réalité, comme toujours, est tellement plus nuancée, comme le prouve cette étude passionnante parue la semaine dernière, menée par l'Université de Lorraine notamment, une étude menée en 2020, donc au pire moment de la pandémie. Nous savons que, certes, 4 Français sur 10 croient que des preuves formelles attestent de théories du complot. Mais si on fouille un peu, on se rend compte qu'il n'en reste que 2 sur 10 qui font de cette défiance une vraie grille de lecture, et c'est beaucoup moins. L'étude nous apprend que 8 Français sur 10 ont confiance en la science, un chiffre stable avec ou sans Covid. La confiance exprimée à l'égard des médecins est de 92%. Voilà qui donne du grain à moudre à notre discussion et pousse à réfléchir comment faire en sorte que la communication à l'égard du grand public soit plus claire. Y a-t-il des instances à mettre en place qui feront ce lien-là? Faut-il laisser 2-3 paroles scientifiques, au contraire, accorder les points de vue? Faut-il plus de transparence? Toutes ces questions, elles sont valables pour nous aussi, au fond, les journalistes, nous qui donnons la parole. Comment favoriser la confiance en la science? C'est le téléphone sonne ce soir et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et le premier, c'est vous, Joseph. Bonsoir. Bienvenue, Joseph.
Merci pour votre accueil. Et je voulais très simplement dire mon étonnement et ma bonne surprise d'apprendre qu'un tel pourcentage de Français accordent leur confiance à la science, alors qu'il y a, hélas, tant de moyens, tant de coups de boutoir, tant d'attaques diffusées sur les réseaux sociaux qui, à mon humble avis, sont des vecteurs de toutes sortes de pollution de l'esprit. Et malgré tout cela, la confiance demeure. Eh bien, réjouissons-nous et pour vous que ça dure.
Comme vous dites, Joseph, merci beaucoup. Pour répondre à Joseph et aussi à vous tous qui nous écoutez jusqu'à 20h, Michel Dubois est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS, vous êtes co-responsable de l'enquête Les Français et la Science 2021. Et Jean-Michel Pavlotsky est avec nous également, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes virologue, professeur au CHU Henri Mondor à Créteil. Michel Dubois, alors Joseph est agréablement surpris. D'abord, est-ce que vous l'avez été vous aussi, vu le contexte? Parce que ce que j'ai trouvé moi passionnant, c'est qu'en plus ce chiffre 84, 82, etc., on est dans des moyennes qui sont les mêmes depuis extrêmement longtemps, en fait.
Exactement, effectivement, ce résultat, et bonsoir à Joseph, effectivement, je partage son bonheur devant ce type de résultat. Et il a de bonnes raisons, effectivement, d'être surpris, parce qu'effectivement, en France, on a quand même un débat public qui est extrêmement focalisé sur l'idée de défiance, d'hostilité des Français à l'égard des sciences. Et c'est pas nouveau en réalité, c'est vraiment une sorte de lieu commun qui s'est installé en France depuis très longtemps. Et tous ceux qui travaillent sur ces enquêtes d'attitude des Français, et maintenant ça fait un petit peu quand même, on a quelques années de recul, puisqu'on a 50 ans de recul, voilà, tous ceux qui ont regardé ça de très près savent très bien que la confiance est là en réalité. La confiance est quelque chose de très stable. Et effectivement, ce chiffre paraît très important, 80-85%, mais c'était le même, grosso modo, à peu près quand ces études ont commencé dans les années 70. Et ça, c'est un point sans doute très important qui mérite de repenser le cas du débat public autour de la relation science-société qui est devenue une question centrale aujourd'hui.
Mais est-ce que 84, c'est le lissage, au fond, parce qu'il y a eu de sacrées oscillations? Est-ce qu'on est, du coup, revenu, on va dire, à une courbe assez plate? Mais est-ce que vous avez vu, est-ce que ça s'observe, ça, une oscillation qui a pu être extrêmement négative à un moment pendant cette crise?
Oui, tout à fait, effectivement. On a tous été fascinés par l'accumulation l'attention des enquêtes d'opinion, de sondage pendant cette période, deux années tout à fait extraordinaires. Et donc, on peut avoir différents types d'observations par rapport à ça. On peut être complètement fasciné par l'aiguille du sismographe, en quelque sorte, qui oscille de façon très importante, ou essayer de prendre un petit peu de recul, et essayer de comprendre les grandes évolutions. Et donc, ce qu'on a essayé de faire avec mes collègues Martin Bauer de la London School of Economics et Pauline Hervoy de l'Université de Lorraine, ça a été précisément de se replacer dans cette longue tendance. Et je pense que les sciences sociales sont utiles de ce point de vue-là parce qu'elles permettent de rectifier un petit peu des idées reçues qui alimentent le débat public.
Jean-Michel Pavlotsky, dans l'intervention de Joseph, il y avait aussi l'idée que la science était attaquée, était sous attaque permanente en fait, et qu'elle avait à se défendre. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti vous aussi, qui faites partie de ces scientifiques qui êtes qu'on a vu subitement, qu'on a entendu, ce qui n'était pas forcément votre meilleure zone de confort, on va dire, comme tout le monde?
Alors, d'abord, je suis aussi heureux que tout le monde de ce chiffre, mais si on regarde le chiffre attentivement, parmi les 16% de personnes qui disent ne pas avoir confiance dans la science, il y en a un certain nombre qui prennent l'avion, qui montent dans des métros sans conducteur, qui prennent des médicaments pour les maladies qu'ils ont. Donc, en réalité, ils ont confiance dans la science sans le savoir. Donc, c'est important. Est-ce qu'on s'est senti attaqué? Est-ce que c'est quelque chose d'anormal? Je dirais non. Je crois qu'il est important que le public soit informé, qu'ils comprennent que la communication n'est pas notre métier. On s'est retrouvés certains beaucoup, d'autres un peu moins. J'ai essayé, moi, de limiter mes interventions au strict minimum. On s'est retrouvés à faire un métier qui n'est pas le nôtre, à répondre à des questions, parfois de façon un peu trop complexe. Et il est normal que la presse, d'un côté, le public qui nous écoute, qui nous lit, d'autre part, exerce un œil critique sur ce qu'on lui dit. Donc, je n'ai pas trouvé les choses anormales. Elles sont évidemment amplifiées dans une période de crise par les poussées d'anxiété. Ces poussées d'anxiété collectives qui ont dû faire osciller la petite aiguille, comme on le disait tout à l'heure. Mais après tout, personne n'a la science infuse. Nous avons découvert, nous les scientifiques, en même temps que la population et que les politiques et que les journalistes, un certain nombre de choses. Il est normal qu'il y ait eu des incertitudes. Il est normal que ça a créé des inquiétudes. Et il est normal que ça ait généré un certain nombre de critiques. Peut-être on aura le temps un petit peu plus tard dans l'émission d'expliquer ce qu'est la science et à quel point elle peut être mouvante et à quel point elle a besoin de temps pour s'installer, pour donner des certitudes aux personnes qui nous écoutent.
Ah ben on peut y aller sur un tout petit point, hein, Jean-Michel Pavlotsky, et peut-être que ce qu'on a découvert, mais on le savait évidemment tous à l'occasion de ce Covid, c'est que le temps scientifique et le temps médiatique sont deux choses qui sont pas fondamentalement différentes, c'est le jour et la nuit.
C'est le jour et la nuit, absolument. La démarche scientifique, si on l'explique, c'est quoi? C'est une accumulation de connaissances par l'humanité au fil des siècles, avec des scientifiques dont le métier est de lever des hypothèses, ensuite de générer des résultats qui peuvent être liés à des observations, ça prend un certain temps, ou à des approches interventionnelles, c'est-à-dire on va faire un essai thérapeutique avec un médicament, on va prendre un modèle de cellule et regarder ce qui se passe. Et ces résultats ensuite, et c'est le travail principal du scientifique, il faut les interpréter. Et interpréter des résultats scientifiques, c'est une démarche qui est humaine, donc subjective. Des personnes différentes, d'horizons différents, avec des cultures scientifiques différentes, vont pouvoir avoir diverses interprétations. Et ensuite, il y a le temps du débat scientifique, de la discussion, et il faut un certain temps pour arriver à un consensus. Et évidemment, c'est un temps qui n'est absolument pas compatible avec le temps médiatique et avec le temps politique, en particulier en période de crise sanitaire. On voit aujourd'hui, 2 ans après le début de la crise, qu'il y a un certain nombre de choses qu'on sait, sur lesquelles on a un consensus, puis des choses qu'on sait toujours pas. Et au début, sincèrement, on savait rien, parce qu'on a découvert avec tout le monde ce qui se passait au fur et à mesure.
Et peut-être que ça a été ça la difficulté d'ailleurs, et notamment toujours sur notre niveau de confiance, c'est d'être capable de dire que à ce moment-là, on ne sait pas. Michel Dubois, il y a eu aussi un grand moment de pédagogie en fait autour de cette histoire de Covid. Est-ce que ça veut dire, et en lien avec ce que vient d'expliquer Jean-Michel Pavlotsky, est-ce que ça veut dire qu'on sait désormais mieux comment ça marche? Est-ce que ça se voit dans vos analyses? Est-ce que les notions de base sont meilleures? Est-ce qu'on est meilleur en médecine, nous aussi, en fait?
Oui, disons que le tableau est un petit peu contrasté. Je dirais que cette surexposition de la parole scientifique et également de la parole des médecins pendant cette période de crise a quand même eu des effets, à mon sens, tout à fait positifs. C'est-à-dire qu'on en sait, à mon sens, aujourd'hui beaucoup plus que c'était le cas il y a 2 ans sur les essais cliniques, sur la manière, la méthodologie de ces essais cliniques. Pourquoi? Parce que tout simplement, effectivement, on a vu qu'il était important de communiquer de façon massive sur ce sujet pour faire comprendre aussi quelles étaient les bases sur lesquelles on développait développait, bien sûr, un certain nombre de politiques vaccinales. Donc tout ça est très important. Ce qu'on montre dans ce rapport, c'est que cette question de la familiarité aux sciences est assez complexe en réalité. C'est vrai qu'on a, sur certains sujets, on peut dire qu'il y a des choses qui sont relativement stables, qui sont bien établies. Et en prenant un petit peu de recul, et c'est ce qu'on a essayé de faire avec ce travail, on voit que on a aussi une familiarité qui est assez fragile d'une façon générale depuis les années 90. C'est-à-dire autant sur les années 70-80, un certain nombre de fondamentaux qu'on pouvait mesurer étaient bien établis, mais depuis les années 90, on perçoit finalement une sorte de fragilisation de ces acquis. Alors pas tant finalement d'ailleurs sous la forme de mauvaises réponses à des questions de connaissances, mais qu'un niveau finalement de sans réponse de plus en plus important dans ces enquêtes, ce qui montre qu'il y a quelque chose à saisir, que la question de la culture scientifique est un enjeu aujourd'hui très important, d'autant plus, comme on l'a mentionné, dans un contexte où il faut faire ce travail d'ajustement entre d'une part la production de la connaissance et d'autre part sa diffusion et sa mise en culture en quelque part. Oui. Et vous, en tant que journaliste, vous avez tout à fait un rôle fondamental à jouer par rapport à ça, qui est un petit peu complexifié par le fait que vous avez un niveau de confiance du point de vue de la population.
Exactement.
Qui est relativement faible.
C'est un peu le diable qui se mord la queue, parce que en effet, la confiance dans les scientifiques, c'est une chose, mais qui parle sur quels médias, sachant que la confiance dans les médias, elle aussi, est en chute libre pour un tas de raisons, qui sont parfois de bonnes raisons d'ailleurs. Donc on a un peu l'impression que c'est le diable qui se mord la queue parfois.
Oui, c'est vrai que c'est assez complexe, et lorsqu'on a présenté ces résultats la semaine dernière, donc dans ce colloque Science New à Metz, j'ai été frappé, un petit peu amusé aussi par la diffusion de nos résultats dans la presse. C'est-à-dire que effectivement, on a bien vu que cette grande enquête qui...
Moi aussi, c'est pour ça que j'ai eu cette idée.
Pour l'invitation.
Que moi aussi, j'ai vu, vous allez me parler de la même chose, on met d'abord en avant les 4 sur 10 voilà. Qui semblent pétrites que de théories du complot, ce qui est en plus encore plus subtil dans les chiffres.
Tout à fait, effectivement, ça a été un moment très, très intéressant de voir la manière dont certains médias, pas tous les médias, et je pense que là-dessus, le constat que je fais est un constat assez contrasté. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment des journalistes qui se saisissent, effectivement, qui prennent le temps de comprendre, et puis il y a des animateurs qui effectivement font un petit peu de buzz sur ce type de sujet, sans vraiment comprendre. Et là-dessus, moi j'invite vraiment les journalistes et les animateurs aussi à avoir un test de vraisemblance, c'est-à-dire est-ce qu'à un moment donné on pense réellement qu'autour de nous il y a une personne sur deux par exemple qui considère que le gouvernement serait aux mains d'une élite secrète. Enfin, il faut être un petit peu raisonnable, je pense.
Voilà, redescendons un peu sur terre. Bonsoir Hélène.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Hélène.
Oui, moi j'étais étonnée en écoutant le début de l'émission du fait que vous parliez de la science. Il me semblerait plutôt qu'on devrait parler des sciences. Et notamment, ce qui me préoccupe, moi, c'est peut-être une dérive d'un certain scientisme depuis pas mal d'années maintenant, qui mènerait vers une déshumanisation, c'est-à-dire que tout passerait par le prisme de la science. Mais moi, je ne sais pas de quelle science vous parlez, et j'aurais plutôt aimé que vous parliez de plusieurs types de sciences. Et notamment, je vous donne un exemple rapidement. Vous voyez, par exemple, la question du masque dans les crèches. Pour les enfants, donc les tout petits, il y a une certaine science, qui est une science la psychologie, le développement de l'enfant, qui dit que ça pose problème par rapport à l'évolution de l'enfant, à son développement, à l'apprentissage du langage, à l'apprentissage des émotions. Et puis il y a une autre science qui dit mais c'est indispensable que les personnels soignants, enfin pas soignants là dans ce cas-là, mais accompagnants, portent masque. Donc vous voyez, il me semble que ça serait nécessaire avant d'entamer le débat, de poser la question de quelle science parle-t-on et dans quel but aussi.
Jean-Michel Dubois, elle est intéressante, vraiment la remarque d'Hélène et la question d'Hélène, et c'est intéressant dans votre sondage aussi parce que en effet, les sciences humaines, etc., enfin tout type de sciences, parce qu'on parlait de psychologie à l'instant, ne sont pas au même niveau dans la confiance des Français.
Oui, disons que en tant que sociologue, j'ai toujours tendance à affirmer que toutes les sciences sont humaines. Donc voilà, donc on peut et je pense que la période de crise a montré.
Dites ça parce que vous n'êtes pas très bien placé, vous les sciences.
Exactement.
Humaines,
nous, on est plutôt dans le bas de la hiérarchie symbolique des sciences. Donc c'est une façon de nous rehausser, de nous revaloriser. Il faut aussi travailler pour notre discipline. Mais c'est vrai, effectivement, votre auditrice a tout à fait raison quand on utilise la science. C'est effectivement une sorte de catégorie un petit peu magistrale. Oui. Et en réalité, bien sûr, il y a des sciences, il y a des régimes d'activité des sciences à l'intérieur de chaque discipline. Et pendant cette période qu'on a vécue, qui est une période exceptionnelle, effectivement, on a beaucoup vu, par exemple, les virologues, pour des raisons évidentes. On a beaucoup vu également les épidémiologistes qui ont été très présents et qui ont un rapport aux politiques qui est vraiment très important. Et je dois dire que, alors, pour parler pour les sciences sociales, on a fait également interroger nos enquêtés sur cette question de l'utilité pour eux des sciences sociales. Il m'a semblé semblait que tout le monde, pendant cette période, a aussi saisi quels étaient les enjeux du point de vue de la réorganisation de la vie sociale pendant cette période-là, et que, sans doute, un certain nombre de questions qui sont traitées par les politistes, les sociologues, les psychologues, et notamment parce qu'on voit aussi monter un certain nombre de mots qui relèvent parfois de la psychiatrie, et ça c'est important aussi de le saisir, et bien du coup, il y a sans doute une forme d'attention. C'est pas tant finalement qu'on augmente fondamentalement la crédibilité de ces sciences dans l'opinion, mais je pense qu'il y a une attention et une visibilité qui a effectivement pu changer pendant cette période-là.
Jean-Michel Pavlotsky, ce que dit Hélène, c'est peut-être l'une des leçons qu'on doit retenir. Alors, nous qui sommes la courroie de transmission, mais vous aussi les scientifiques, et je trouvais que son exemple était vraiment un bon exemple. Est-ce que ça veut dire que, y compris chez les scientifiques, chacun est dans son couloir? Donc effectivement, le virologue que vous êtes dit ah bah évidemment, mettez tous les masques. Et on peut comprendre que le psychologue à côté dit, attendez, voici les conséquences. Est-ce qu'on se dit pas que ce qui a manqué, au fond, pendant cette crise, c'est aussi la capacité à se parler les uns les autres dans le grand domaine de la science, qu'Hélène a raison de souligner comme n'étant pas un et uni tout le temps?
Ben, je suis complètement d'accord, moi, avec ce qu'a dit Hélène et ce que vient de dire mon collègue. Il n'y a pas que les sciences dites dures, il y a les sciences humaines, il y a les sciences sociales. On les a pas découvertes aujourd'hui, et en réalité, ça n'est pas les virologues ou les infectiologues qui ont fait le programme des différents plateaux d'information en continu. Nous, qui travaillons sur des virus depuis très longtemps, avons découvert l'importance des sciences humaines et des sciences sociales avec l'épidémie de VIH. Et ça n'est pas un hasard si cette importance revient en premier plan avec cette épidémie-là. Alors, il y a bien sûr l'instant de sidération du début, on veut entendre une parole scientifique rassurante sur le virus, les traitements, les vaccins, etc. Mais évidemment, toute l'expérience qui a été accumulée dans la gestion de l'épidémie de VIH-SIDA est une expérience extrêmement précieuse. Et je dois dire que les virologues font probablement partie des personnes qui sont les plus sensibilisées à l'importance de ces sciences-là.
On a cette question de Jeanne qui est à Nantes et qui dit ceci, la science, c'est l'incertitude et c'est la décision. Et pendant cette crise, nous n'avons entendu que des affirmations complètement erronées. Alors, complètement, certainement pas, mais je trouve ça intéressant l'idée que, normalement, la science est censée être incertitude et discussion. Jusqu'à quel point la science est incertitude et discussion lorsqu'elle arrive à nous? Le grand public, les gens, d'une certaine façon, Michel Dubois.
Oui, disons qu'il y a différentes façons de traiter cette question. Une façon que je trouve toujours un petit peu problématique, c'est de dire il y a d'un côté la science et d'autre côté la recherche. La science étant quelque part des énoncés solides, robustes, quelque part refroidis et auxquels on ne pourrait plus toucher. Et de l'autre côté, il y aurait la recherche qui serait une sorte de magma comme ça qui changerait sans cesse, où il y aurait effectivement du chaos et de l'incertitude. En réalité, les choses sont beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'on sait très bien que des savoirs qui sont effectivement stabilisés à un moment donné peuvent être repris, et on l'a vu, y compris pendant cette période. Et donc, on a une sorte d'interpénétration entre les deux, entre ce qui relève des énoncés qui semblent certains, et d'autre part, des activités qui travaillent. Voilà, notre activité de recherche est une activité qui est fondée sur le doute. C'est-à-dire qu'on a besoin, effectivement, de se poser des questions, de douter. Et collégialement, c'est une activité collective. C'est pas un chercheur dans son coin qui doute tout seul et qui pose des hypothèses, qui les teste. C'est un travail, effectivement, collectif. Et le point qui est le plus important, et c'est une réflexion qui nous engage, nous, collectivement, dans le comité scientifique, c'est d'apprendre aussi à parler de façon plus explicite sur nos doutes, sur nos incertitudes. Et c'est ce qu'on a vu, un des problèmes dans la communication scientifique, sans doute pendant cette période, c'est qu'on a eu des chercheurs qui ont été finalement extrêmement certains ou qui ont fait preuve d'une sorte de certitude absolue, là où fondamentalement les choses restaient ouvertes.
Alors que d'autres, au contraire, ont exprimé leurs doutes, mais peut-être que ça fait peur, le doute, dans ces moments-là, et que c'est comme ça qu'on en arrive là où nous sommes. David est avec nous. Bonsoir, David.
Bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir à tous. Alors, moi je suis ingénieur en environnement, au chômage, mais ingénieur en environnement, donc plutôt un scientifique. Et j'ai bénéficié, grâce à mon cursus, d'accès à un grand nombre de connaissances, cursus public, qui m'a donné des infos sur l'environnement, sur la santé, sur plein de choses. Et je me dis, je vois avec mes concitoyens, je vois autour de moi que plein de gens n'ont pas du tout accès aux infos et aux connaissances que j'ai. Moi, si je leur dis, ils se disent, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? Et je pose la question de ce patrimoine commun, patrimoine public, qu'est la connaissance. On a des chercheurs qui ont fait des recherches avec de l'argent public. On nous a légué ancestralement, nos parents, nos grands-parents et tout ce qu'on veut, des choses qui appartiennent à tous des infos, des connaissances qui ne sont pas disponibles. Alors, j'ai envie de dire, c'est normal, on est dans un monde capitaliste, on veut tout vendre, on veut tout s'approprier, mais à un moment, moi, je m'insurge de ce qu'on piétine notre patrimoine commun, à commencer par l'accès à la connaissance.
Mais là, par exemple, est-ce que vous avez un exemple précis à nous donner sur quelque chose qui nous appartient à tous, mais dont on ne connaît pas, j'en sais rien, le contenu en un exemple, ça veut dire quoi ce que vous nous dites, David?
La connaissance, c'est mille choses. Je vais vous en donner un qui me concerne personnellement. Moi, je vis, j'essaye d'être le plus proche de la nature, de la respecter. Je produis ma propre électricité. Aujourd'hui, j'ai un mal de chien à accéder à certaines connaissances scientifiques en électricité, parce que j'ai un dispositif autonome, j'utilise des batteries spéciales, etc. Et je fouille sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi. Je m'adresse à des profs, eux-mêmes ne savent pas. Et l'électricité, c'est pas nouveau comme rayon. Et moi, je suis privé d'évoluer dans mon existence, privé d'un savoir qui n'appartient à aucune des personnes vivantes aujourd'hui, qui nous a été légué et dont on est spolié parce que moi, je proposerais par exemple comme solution, le gouvernement ne peut, alors évidemment, ça va lui coûter des sous, mais ne peut-il pas organiser un peu mieux cette mise à disposition du savoir? On peut ouvrir le sujet des gens qui voudraient se former par eux-mêmes sans passer par l'école.
Je vous entends, David. Alors après, moi, ce que je trouve un peu... vous êtes dans votre problématique électrique, donc vous avez l'impression qu'il y a un problème électrique. Et puis, moi, si je suis dans une problématique, j'en sais rien, moi, qui concerne la toiture, j'ai besoin que toute cette science me soit donnée aussi. Et à la fin, est-ce que l'idée, c'est vraiment que chacun, dans son cas particulier, ait accès et demande accès à une somme de connaissances? On va jamais s'en sortir, si?
Alors, c'est ce qu'on appelle des utopies quand on n'arrive pas à les envisager. Mais je crois qu'il faut clairement qu'on se pose cette question d'avenir. On le voit aujourd'hui avec le Covid, il y a une distorsion. Ah. Il y a des gens qui attaquent, qui accusent d'autres gens, qui les traitent limite de criminels parce que ils ne comprennent rien, ils n'ont pas accès. Donc à un moment, ce sujet-là qui est peut-être utopique, ça devient un sujet d'union, de building nation, quelque part.
Je vous entends.
Vivre ensemble, et on ne peut pas faire sans.
Je vous entends, David. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, Michel Dubois, c'est, là par exemple, David est revenu sur la question du Covid. Oui, il y a un certain nombre d'informations peut-être qui ont manqué à certains. Savons-nous tous lire toutes les informations que la science, et quel que soit le domaine, celui qu'évoquait David ou n'importe quel autre, avons-nous tous les moyens de lire et de comprendre ça? Moi, j'ai presque envie de demander si on peut pas aussi faire confiance. Moi, par exemple, quand je rentre dans un Airbus, j'ai confiance dans le gars qui l'a construit et je lui demande pas les plans. C'est juste ça la différence, en fait.
Oui, la question que soulève David est en fait il y a plusieurs tiroirs en réalité dans cette question. Il y a une première question qui est celle de l'accessibilité des savoirs. En tant que chercheur CNRS, je tiens quand même à signaler que nos institutions de recherche font un effort pour aller dans une direction de ce qu'on appelle la science ouverte, l'open science, qui est aussi pouvoir rendre accessibles les publications qui sont effectivement financées souvent sur la base de fonds publics. Et donc il y a aussi cette idée que le fait que ça soit un investissement public puisse garantir aussi une forme d'accessibilité à la fois pour les chercheurs mais également pour les lecteurs. Parce que en réalité, quand on bascule une publication sur des archives ouvertes, tout le monde peut y accéder. Donc David, alors je ne sais pas sur ce problème spécifique de l'électricité, mais sur plein de questions, en réalité, le champ des publications n'a jamais été aussi important, enfin le champ des publications accessible. Après, la deuxième question qui se pose, c'est celle effectivement de notre capacité, quelque part, à comprendre, à lire. Et là, ça engage d'une certaine façon notre formation initiale et la façon dont nous nous saisissons de ces savoirs. Et là, on sait bien, effectivement, c'est le sociologue qui va parler, effectivement, on est totalement inégaux de ce point de vue-là, de notre point de vue, notre capacité à nous réapproprier ces savoirs. Ça engage, de ce point de vue-là, d'une réflexion plus générale. On revient un petit peu à la question qu'on avait tout à l'heure sur la familiarité. À la fois l'éducation et la diffusion de la culture scientifique est une question éminemment politique.
On va rester un peu sur cette idée de transparence, Jean-Michel. Michel Pavlotsky, parce que c'est des choses qu'on a entendues, notamment au cours de cette pandémie, lorsque le vaccin est arrivé, mais qu'est-ce qu'on sait de ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce qu'on a toutes les infos, etc. Dans un autre genre, mais on est finalement connexe, on a cette question de Camille qui nous dit « Pendant mes premières années d'études, j'étais folle de science, et lorsque j'ai fini mes études, j'ai travaillé dans les laboratoires pharmaceutiques, j'ai réalisé que la médecine était extrêmement liée à l'argent. » Bref, y a-t-il quand même un problème de transparence qu'il faut peut-être régler pour aller en même temps que la confiance?
Oui, bien sûr. La confiance et la transparence sont intimement liées. La transparence est absolument indispensable et les mécanismes de contrôle sont absolument indispensables également. Mais il y a un moment où il faut qu'on soit capable de dédiaboliser la relation entre le monde académique et le monde industriel. Je vais vous raconter juste une anecdote. Mm-hmm. Lorsque j'ai été nommé à l'internat de Paris, j'avais 23 ans, je suis arrivé de province. Dans ma province natale où j'avais fait mes études de médecine, il n'y avait pas de malades du sida. Je suis arrivé dans les hôpitaux parisiens et j'ai vu ces jeunes de mon âge mourant dans des souffrances absolument atroces, avec rien à offrir. La solution, elle est venue d'où? Elle est venue de cette collaboration entre le monde industriel qui a produit des médicaments, les antirétroviraux, et le monde académique, et de cette interpénétration. Donc c'est quelque chose qui est absolument indispensable et qui vient de se reproduire sur les vaccins ARN. Donc il faut vraiment dédiaboliser ça, parce qu'une des raisons pour lesquelles la France a sans doute raté le rendez-vous du vaccin, c'est parce qu'il n'y a pas cette porosité entre le monde académique et le monde industriel. Ceci étant dit, il est évident qu'on doit être extrêmement vigilant, que l'industrie pharmaceutique, l'industrie du vaccin, etc., sont des industries qui ont pour objectif de gagner de l'argent, qu'il y a bien sûr des lobbies, qu'il y a des influences, qu'il peut y avoir des pratiques commerciales douteuses. Et donc, il faut une extrême vigilance des citoyens, des institutions, de la presse, des professionnels sur tout ça, mais sans paranoïa. C'est impossible aujourd'hui de développer un vaccin aussi efficace que les vaccins ARN s'il n'y a pas plusieurs dizaines d'années de recherche académique derrière. À un moment, une biotech qui s'empare et qui transforme ce produit de recherche en un produit potentiellement industriable, et ensuite une industrie de grande ampleur qui prend le produit et qui le transforme en produit commercial qui ensuite doit être essayé en toute transparence dans le cadre d'essais vaccinaux ou thérapeutiques, et ensuite arriver sur le marché. C'est absolument indispensable.
Et c'est peut-être ça, Michel Dubois, qui a manqué, y compris là, en effet, parce qu'on a tous entendu, ah bah dites donc, le vaccin miracle qu'on arrive à trouver en aussi peu de temps, etc., en oubliant au passage, alors est-ce qu'on a oublié de le dire, nous les journalistes, est-ce que les scientifiques ont oublié de le dire aussi, en oubliant qu'il y a 20 ans de recherche derrière, donc il sort pas du pas d'un cheval, ce vaccin ARN, et exactement, suivant l'exemple de Jean-Michel Pavlotsky, quand on explique comment ça marche, peut-être que ça évite des questions qu'on entend encore et qui disent « Ah, le vaccin est dans sa phase 3, je ne veux pas d'un vaccin expérimental. » Il a manqué des choses quand même peut-être, non?
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de cette expérience. Je voudrais quand même insister sur le point que vient de mentionner Jean-Michel Pavlotsky, parce que c'est un point fort de l'étude, en fait, qu'on a essayé de présenter. Il y a clairement une distinction entre la recherche académique et la recherche industrielle dans la perception du grand public. Ouais. Et il y a également un soupçon très fort sur la capacité des chercheurs à maintenir une forme d'autonomie par rapport aux grandes industries. Et une partie de la diffusion un petit peu de ces thèses qu'on voit circuler, complotistes, conspirationnistes, finalement sont alimentées par ce doute et par ce soupçon. Et donc je pense que c'est effectivement extrêmement important de bien insister sur l'affichage, la transparence à l'égard des liens d'intérêt et un travail d'éducation, y compris à faire pour la communauté scientifique. Parce que moi, des fois, quand j'entends certains de nos collègues, je suis toujours un peu ébahi d'entendre dire, par exemple, que mon autonomie serait garantie par la multiplication des liens d'intérêt. Non, mon autonomie n'est pas garantie par la multiplication de mes liens d'intérêt, c'est simplement un gros conflit d'intérêts. Et donc, il faut absolument faire ce travail vis-à-vis du grand public, certes, mais également pour la communauté professionnelle à laquelle on appartient, changer cette culture des liens, et je pense que le travail qui est fait progressivement autour de la base Transparence Santé est un travail qui va dans ce bon sens.
Tom, bonsoir. On vous écoute, Tom.
Oui, alors merci pour m'avoir accepté ma participation. Je vous appelle, en fait, je suis étudiant en microbiologie à l'Université de Paris-Saclay. Et justement, par rapport à votre étude, du fait qu'il y a un doute dans la population par rapport à ce qui peut être dit sur des sujets scientifiques, je voulais mettre le point sur le fait que beaucoup de politiciens aujourd'hui, qu'ils soient du gouvernement ou pas du tout dans le gouvernement, ont donné leur avis sur des sujets qu'ils ne maîtrisaient pas forcément. Et je voulais aussi rappeler quand Étienne Klein avait dit qu'on parle le fameux « je ne suis pas médecin, mais » qui a été utilisé par beaucoup de politiciens. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi cette part de responsabilité de toute cette communauté politique qui a pu discréditer la parole scientifique au final, parce que juste ils ne connaissaient pas du tout leur sujet et ont voulu tirer des avantages dans leurs idées avec juste des résultats qui ont pu être amenés sans avoir vraiment de fond à leur réflexion.
Merci beaucoup Tom. Jean-Michel Pavlotsky, est-ce que vous avez été vous aussi très très agacé par « je ne suis pas médecin mais » et surtout par l'utilisation qu'on a pu faire aussi politiquement de la parole scientifique ?
Et vous savez, je pense que ce qu'on est en train de discuter avec les différents sujets que vous balayez, c'est un petit peu comme une boule qui arrive, une boule qui s'appelle le coronavirus, qui arrive dans un jeu de quilles qui est l'organisation de notre société, en fait. Ça a déstabilisé tout le monde. Bien sûr, les hommes politiques ont réagi comme des hommes politiques. Certains d'entre eux sont médecins, d'ailleurs. Il faut pas l'oublier. Pas tous. Tout le monde a été déstabilisé à un moment, et c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de choses, parfois n'importe quoi, parfois c'est l'interprétation de ce qui a été dit qui est erronée aussi, parce que il m'est arrivé d'entendre un certain nombre de personnes parler, des collègues, des politiciens, des gens, et de dire des choses qui me semblaient justes, mais qui ont été mal interprétées ensuite, et interprétées de façon erronée. Donc, tout ça participe, avec l'amplification et le niveau de panique générale, à donner cette impression de désordre et de pagaille. J'ai l'impression que, aujourd'hui, on est quand même en train de calmer le jeu, qu'on entend beaucoup moins de bêtises, que les gens sont plus prudents aussi. J'espère que ça va toujours être le cas pendant cette vague.
Tout le monde a appris, les médecins, les journalistes et les gens qui nous écoutent ont appris aussi, ont des notions désormais qu'ils n'avaient peut-être pas avant. Michel Dubois, moi j'ai été étonné dans l'étude de voir que au fond, confiance et politique sont assez décorrélés en fait, alors que j'aurais plutôt imaginé le contraire.
Oui, disons que l'expression de défiance se focalise effectivement énormément sur le politique, en tout cas dans cette hiérarchie symbolique de la confiance. Et la question du rapport entre science et politique est en fait assez complexe. C'est-à-dire que on a vu que le politique avait besoin à un moment donné de s'appuyer sur des comités d'experts, ce qui est tout à fait utile. Enfin, je veux dire que moi j'étais aux États-Unis pendant assez longtemps et notamment pendant l'administration Trump. Et lorsqu'on a vu arriver Trump, effectivement, on a vu tomber progressivement les comités d'experts et une sorte de politisation systématique de tous les enjeux scientifiques. Et ça fait des dégâts monstrueux sur tous les plans. Donc, quelque part, on peut se réjouir qu'un gouvernement essaye à un moment donné de convoquer un certain nombre d'experts pour pouvoir travailler sur la question des recommandations. Mais pour autant, il faut faire très attention, effectivement, à l'instrumentalisation du scientifique par le politique. Et il faut également que le politique assume ses responsabilités et ne se défausse pas sur le scientifique. Donc, effectivement, c'est toujours une relation, cette relation science-politique, une relation complexe.
Patrice est avec nous, c'est vous le dernier Patrice, j'allais dire soyez un peu court mais on vous écoute, on est content de vous avoir, on vous écoute.
Oui bonsoir, vous avez parlé des différents domaines scientifiques, vous venez de parler de confiance. Je n'ai pas hésité à me faire vacciner, j'irai faire ma troisième dose. Cependant je pense que la science peut avoir notre confiance selon le type de science. Et la collaboration, le copinage entre certains responsables politiques et scientifiques ne peuvent laisser pantois. Je prendrai quelques petits exemples très courts. Vous avez parlé de l'université. Autrefois, moi, j'ai travaillé à l'université de Lorraine où était rattaché à l'UFM de Lorraine. La fac de sciences, dans les années 90, avait organisé une exposition sur la gestion des déchets nucléaires de manière totalement univoque, favorable à l'enfouissement des déchets, d'ailleurs dénoncé par la CRIRAD. Je suis allé voir la responsable, lui demandant d'apporter une information contradictoire, ce qui est la base même de la formation d'un esprit scientifique. Elle a refusé. J'ai écrit dernièrement au rectorat de Lorraine pour demander à ce que les élus qui sont opposés à ce projet puissent intervenir dans les écoles, puisque l'ANDRA qui gère les déchets intervient elle-même, c'était refusé. Donc comment pouvez-vous avoir confiance en une entité dont l'honneur, le pilier, la raison d'être est de favoriser la controverse ?
Sauf que là, on ne parle pas de science, on parle de l'université contre laquelle, visiblement, Patrice, vous avez une dent. Donc on est sur deux choses qui me semblent un petit peu différentes, ce que je trouve intéressant, Michel Dubois. Et je pensais justement qu'on le retrouverait plus, et c'est plutôt une bonne nouvelle dans cette étude-là, c'est qu'on a l'impression quand même que chacun lit la science à l'aune de ce qu'il est, de ce qu'il pense, de ce qui l'intéresse, de là, par exemple, Patrice, de ce qui le porte même, oui. Ce qui donne des résultats. résultats différents.
Tout à fait. On est guidé dans, en tout cas, dans notre appétence, dans notre goût pour la science, effectivement, à partir d'intérêts, parfois d'intérêts qui sont très pratiques, du point de vue de notre vie quotidienne, de ce qu'on perçoit par exemple comme un bienfait pour notre santé. Mais ce que mentionne Patrick, en tout cas sur le nucléaire, c'est un point intéressant parce qu'on montre bien, effectivement, dans notre enquête, qu'il y a un ensemble de dossiers qui restent très chauds, qui sont des dossiers controversés, que ce soit effectivement le nucléaire, que ce soit les OGM, et ça pointe un problème qui, à mon sens, un problème quasiment institutionnel, c'est-à-dire que en France, on manque, et c'est un point important, d'un espace, en gros, d'un dispositif de débat public qui soit à la fois ouvert vers le public, mais porté par le Parlement. On voit, par exemple, que la conférence citoyenne sur le climat qui a eu lieu a été complètement décorrélée du Parlement parce que c'était porté par des entités, soit le CNDP, soit le CESE, et donc, à mon sens, il faut en France repenser les fonctions de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques pour qu'il porte véritablement une articulation entre le grand public et les milieux politiques autour de ces enjeux scientifiques.
En tout cas, effectivement, l'articulation entre ceux qui font les scientifiques et nous derrière, effectivement, elle est importante et elle se situe en effet à tous les niveaux de la science. Jean-Michel Pavlovski, puisqu'il nous reste peu de temps, moi j'aimerais savoir ce que vous ne referiez pas aujourd'hui si on se retrouvait à nouveau face à une nouvelle pandémie, ce que évidemment personne ne souhaite, mais qu'est-ce que vous ne referiez pas, vous, le virologue, que vous avez peut-être fait en mars, avril, mai, juin 2020, dans ce grand moment de très grande incertitude?
Écoutez, très sincèrement, et vous me prenez à brûle pour point, rien. Nous avons, je pense, réagi de la bonne façon, mis en place dans des difficultés extrêmes les tests virologiques, développé les tests rapides antigéniques et évalué chez nous pour les mettre sur le marché aujourd'hui, enfin pas sur le marché, mais pour leur donner la justification qui puisse être utilisée. Aujourd'hui, 3/4 des tests sont des tests antigéniques. On a monté en quelques semaines une des 4 plateformes nationales de séquençage du virus SARS-CoV-2 au début de l'année 2021, où on réalise plusieurs milliers de séquençages. Voilà, donc je pense pas qu'on ait fait de grosses bêtises. Je pense pas que moi ou mes collaborateurs ayons dit de grosses bêtises.
Voilà, j'allais dire, y compris dans ce que vous avez dit.
Comment ?
Y compris dans ce que vous avez dit, c'était aussi le sens.
Absolument, je crois qu'on a tous été extrêmement prudents, on doit l'être, extrêmement modeste. Mmh. Je vais vous prendre un exemple encore si j'ai le temps.
C'est rapidement.
Au tout début, j'ai vraiment cru, parce que je travaille depuis très longtemps sur le virus de l'hépatite C, qui est un virus extrêmement variable, j'ai vraiment cru que ce virus allait varier très vite et qu'on allait avoir des variants tout de suite. Première fois qu'on avait une pandémie, on n'en a pas vu. Et puis au moment où on les attendait plus, ils sont arrivés. Voilà, on a découvert, et il faut, je crois, de façon très humble, dire qu'il y a des choses qu'on ne savait pas, des choses qu'on a apprises, mais la technologie et la science qui sont le sujet d'aujourd'hui ont fait des progrès absolument considérables au cours des dernières années, et on a vu ces progrès-là avec cette pandémie, à la fois dans l'identification du virus, qui a pris quelques semaines, dans le développement de ce vaccin, qui a pris quelques mois. Donc voilà, non, je pense que si c'était à refaire, j'essaierais modestement de refaire pareil avec toute mon équipe.
Michel Dubois, très très rapidement, qu'est-ce qui se passe quand rien ne marche ? Je suis en train de penser par exemple à ce qui se passe chez certains aux Antilles, par exemple en ce moment où on sent bien que le discours scientifique ne passe pas, ça ne marche pas. Il faut trouver autre chose. Oui. En fait. Qu'est-ce qui se passe quand rien ne marche ?
Je pense que la situation des Antilles est une situation tout à fait fascinante, mais qui mélange énormément le politique et le scientifique.
On est d'accord avec ça.
Donc,
mais néanmoins,
qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut trouver des relais, il faut trouver des dispositifs qui soient originaux, qui permettent de faire du travail d'association et associer la population à un ensemble de décisions et pas simplement effectivement plaquer des décisions sur cette population.
Merci beaucoup. Merci vraiment à tous pour vos très nombreuses questions. Merci à vous deux, invités du Téléphone Sonne ce soir. Portez-vous bien.